Il disegno.
Il disegno, c'est une revue audio et papier, des sujets clés, des interviews, puisque la beauté est avec ceux qui la préservent.
Des meilleures races, à moins que mes yeux ne soient abusés par quelques sorcelleries.
Gripoil. C'est le seigneur de tous les chevaux. Et ce fut mon ami lors de ma danger.
Ah, ce bon vieux compagnonnage entre les humains et les chevaux. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Syllab. C'est l'émission Il disegno avec Thibaut. Un jeudi sur deux, de 19h à 20h. Qui n'a jamais rêvé de se lancer dans une cavalcade à travers les forêts, les chemins, les prairies de la contrée, de passer sous les branches au son des sabots qui frappent le sol en humant le parfum de la résine ou de l'humus mouillé qui remonte le long des taillis, traverser un ruisseau en éclaboussant ses bottes, être bercé par le balancement d'un cheval qui file à travers la campagne, avec la vapeur de sa bouche dans l'air froid, ou sous un chaud soleil qui fait briller l'herbe et les feuilles, avec le vent dans votre visage. Vous connaissez bien votre cheval et les signes qu'il vous communique par un bruit ou un mouvement, et lui aussi vous connaît bien. Le sol disparaît sous ses pas, et le temps semble s'évaporer dans le ciel battu de vent où les nuages changent de forme à chaque minute. Voilà, je vous fais la version fantasmée de ce que ça peut donner, de cavalcader à cheval. On verra au cours de cette émission si cela relève complètement du fantasme ou non. Car ce soir, nous allons parler du cheval, ou plutôt de l'humain et du cheval, du lien en fait qui peut s'établir entre eux et de ce qu'ils peuvent s'apporter l'un à l'autre dans leur collaboration, voire leur amitié. Dans notre émission, il disegne ou qui s'attache à quelque chose que j'appellerais le design civilisationnel, dit autrement l'esprit et la forme que pourrait avoir notre futur, un futur qui aurait du style et du contenu. Comment ne pas parler de ce couple mythique, le cheval et son cavalier ou sa cavalière, bien sûr, ou tout simplement le cheval et l'humain, eux qui ont vécu déjà tellement d'événements et d'aventures ensemble. Comme le disait Gandalf dans l'extrait du Seigneur des Anneaux que vous avez entendu en ouverture. Aujourd'hui, les modes de transport et de circulation issus de l'ère industrielle penchent de plus en plus vite vers la désuétude, et même si on n'en est pas encore à envisager de revenir au cheval, c'est un sujet qui ne me paraît pas hors sujet. Le cheval a ça de plus par rapport au vélo qu'il est un être vivant et qu'on peut créer une relation de réciprocité avec lui. Pour en parler, nous avons invité dans le studio de Syllab Célia Carimalo. Bonsoir.
Bonsoir.
Célia, tu pratiques l'équitation depuis longtemps. Tu es ATE, c'est-à-dire accompagnatrice de tourisme équestre, et tu travailles actuellement à l'écriture d'un manuel ou d'un guide. On reviendra peut-être au nom qu'on peut lui donner. Donc un manuel, disons, de la randonnée équestre. Alors nous allons en parler, bien sûr. C'est important aussi, très important pour notre sujet. Tu possèdes, alors là voilà, j'ai utilisé possède exprès parce que justement le terme évidemment pose question, tu possèdes une jument que tu connais très bien, que tu montes, que tu soignes et avec qui évidemment une relation particulière s'est nouée au fil du temps.
Oui.
Pour commencer, pour situer un peu les choses aux auditeurs, peux-tu nous résumer ton parcours, notamment en ce qui concerne les chevaux, ce qui t'a amené auprès d'eux et ce qui continue de te relier à eux aujourd'hui.
Alors déjà, merci de m'avoir invité ce soir. Je suis vraiment contente de pouvoir parler de ce sujet.
Donc c'est une super opportunité pour moi. Pour ce qui est de mon parcours vis-à-vis des chevaux, ça a commencé très jeune. J'avais 5 ans quand mes parents m'ont inscrite dans un centre équestre pour prendre des leçons d'équitation. Et donc ça a duré déjà plusieurs années. Jusqu'à mes 17 ans, j'ai pris des leçons. Puis j'ai eu envie d'arrêter. Donc j'étais au lycée, c'était un moment où j'avais d'autres choses à faire, mais aussi c'était assez strict comme enseignement. Et ça se basait beaucoup sur la compétition, le saut d'obstacle. Et finalement, j'ai eu de moins en moins d'intérêt pour ça. Et donc, ce qui s'en est suivi, ça a été une période en fait, où je me suis pas mal éloignée des chevaux. Je continuais à faire une balade de temps en temps, on va dire une fois par an, quoi. Donc très ponctuellement. Et puis, en fait, c'est revenu dans ma vie vraiment sous la forme d'un désir assez soudain de retourner à leur contact. Alors ça, c'était en 2016, donc c'est assez récent. Et du coup, j'ai décidé de partir en woofing dans une ferme en Ariège pour me remettre en contact avec des chevaux, mais dans un environnement différent. Donc là, c'était une ferme qui proposait notamment des randonnées. Et donc, j'ai découvert le métier d'ATE là-bas. Ça a été une très grande découverte pour moi et ça m'a permis en fait de renouer avec le cheval, vraiment. Pouvoir découvrir le cheval autrement, dans un autre cadre. Suite à ça, très rapidement, quelques mois après, entamer la formation. Donc, j'ai été diplômée en 2017, donc ça fait maintenant 2 ans. Je poursuis d'autant plus ce lien que j'ai renoué avec les chevaux par la possession, je dirais plutôt que je suis propriétaire de ma jument, mais bon voilà, je dirais pas que je la possède. Mais du coup voilà, depuis un an j'ai en effet une jument à moi dont je m'occupe, et ça c'est vraiment encore une autre aventure qui vraiment approfondit beaucoup le lien humain-cheval.
Alors on va justement beaucoup parler de ce lien en précision. Une question d'abord. Qu'est-ce qui t'a amené à décider et à commencer à écrire un livre sur la randonnée équestre ?
Alors, ce qui m'a amené à faire ça, c'est évidemment suite à ma formation, durant laquelle j'ai eu l'opportunité de rédiger pas mal de cours. Donc, j'avais beaucoup de matières de théorie, on va dire. Et bon, je me suis quand même dit à un moment, ce serait bien d'en faire quelque chose. Et puis, c'est aussi beaucoup venu du fait que je trouvais un manque dans les manuels déjà existants, qui sont très riches au niveau du contenu théorique et très précis, sur plein de points, d'ailleurs, qui dépassent largement mes connaissances à moi, et qui m'ont beaucoup aidée. Mais voilà, ce qui me manquait, moi, c'était plus, l'aspect du vécu, de la transmission concrète de ce qui se passe quand on est à cheval, quand on mène un groupe, quelle est la relation au groupe, comment on leur parle, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de se repérer dans un chemin, quelque chose de l'ordre de vraiment de l'expérience intime, on va dire. Et aussi, moi je suis très animée par la question de pourquoi on fait les choses. Dans quel but, qu'est-ce que ça va nous apporter au niveau de notre réalisation personnelle. Et ce livre, il vient aussi répondre à ça. Qu'est-ce que le cheval et qu'est-ce que du coup, en particulier l'activité de randonnée équestre, elle peut amener individuellement à chacun et puis en groupe aussi.
Avant de continuer l'entretien, je te propose d'écouter un bref extrait de film à nouveau. Alors cette fois, il s'agit du film Pur Sang, la légende de Seabiscuit.
Ouais.
C'est un film américain de Gary Ross, avec notamment Tobey Maguire, un des Spider-Man. Ce film raconte la rencontre entre Seabiscuit, un petit cheval qui ne paye pas de mine, cabossé par la vie, en qui personne ne croit, et 3 autres cabossés, des humains, ceux-là, un propriétaire, un jockey et un entraîneur de chevaux, qui d'ailleurs est bien plus qu'un entraîneur. Alors là, on est aussi dans le récit de succès à l'américaine. Ce petit cheval rejeté de tous va devenir l'événement le plus inattendu dans l'univers des courses hippiques. On est dans le contexte post-crise de 1929 en plus, donc il y a toute une aura et même, je dirais, une folie qui se déclenche autour de ce cheval. Donc je vous propose un petit extrait de ce film sur la légende de Seabiscuit.
La première fois qu'il vit Seabiscuit, le poulain marchait dans la brume à 5 heures du matin. Smith dira plus tard que le cheval le regarda droit dans les yeux, comme pour dire « Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Pour qui tu te prends ?» C'était un petit cheval d'à peine 1,50 m. Il faisait de la peine. Il boitait. Il respirait bruyamment. Smith n'y prêta pas attention. Il regarda le cheval dans les yeux.
Ah, c'est incroyable.
Il était le fils de Artak, lui-même fils du puissant Manhower. Mais la progéniture n'impressionnait personne à Claiborne Farm.
À dégager.
À l'âge de 6 mois, il fut envoyé à Sonny Fitzsimmons, un entraîneur légendaire, qui, avec le temps, se fit la même opinion du poulain.
C'est un cheval de course ou un cheval de trait ?
Voilà, vous écoutez Silab. Nous accueillons ce soir dans l'émission Il Disegno Célia Carimalo pour parler du lien entre l'humain et le cheval. Alors, ma première question plus concrète sur le sujet, Célia, la voici. Quand on fréquente les chevaux, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qui est spécial chez eux et à quoi peut-être on n'avait pas pensé avant?
Alors, déjà, je pense que ça va dépendre de chacun parce qu'on a tous... Le cheval, il va apporter à chacun quelque chose de différent en fonction de ce qu'il va avoir besoin de recevoir et de la manière dont il va entrer en relation avec. Si on arrive à s'ouvrir à ce qu'est vraiment un cheval et à essayer de vraiment le comprendre, je pense que ce qui peut amener d'étonnant, c'est la découverte de sa sensibilité. Parce que souvent, quand on ne connaît pas les chevaux, on trouve ça impressionnant, grand, massif, et on peut avoir l'impression d'un danger, on peut avoir peur du cheval, en fait, de manière assez instinctive, alors que c'est une proie, et que donc un cheval, par nature, n'est pas du tout agressif, surtout pas envers nous, on va dire... Il mange de l'herbe, mais il peut être agressif envers l'herbe si on veut, mais à part ça, voilà. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est ça, c'est qu'en fait, à force de côtoyer les chevaux, on peut découvrir cet aspect-là, vraiment sensible. Et voilà, moi je dirais que c'est plus ça qui peut me marquer et qui ne se voit pas forcément.
Alors, le cheval à l'état sauvage, en fait, on le connaît peu. On peut avoir l'imagerie lointaine du Mustang dans les plaines de l'Ouest américain, mais en fait, comment vit un cheval à l'état sauvage, en tout cas de ce qu'on a pu observer?
Alors moi, je tiens quand même à préciser que j'ai jamais observé des chevaux directement à l'état sauvage moi-même. Mais par contre, je me suis quand même beaucoup intéressée à ça. Donc ce que je peux en dire, ça vient de ce que j'ai pu lire, en fait, au niveau des études qui ont été faites, au niveau de l'éthologie. Ce qu'on appelle l'éthologie, c'est l'étude du comportement du cheval en milieu naturel, donc qui vise en grande partie à observer. Donc, ce qu'on en retient, c'est que donc, le troupeau, comme on dit des chevaux, ça s'appelle une harde, en fait. Elle est composée d'un nombre très variable d'individus. Ça va de 6-7 à plusieurs dizaines, voire une centaine. Enfin, ça peut être vraiment très important. Et donc elle est composée de tous les individus qu'on peut rencontrer chez les chevaux, c'est-à-dire des juments, des mâles, des poulains, et voilà. Et dedans, on va avoir quand même des rôles particuliers qui se démarquent un peu. Donc on a un étalon, il y a toujours un seul étalon dans une harde, même s'il y a 100 juments, qui d'une part est en veille constante sur le troupeau. Donc, en fait, il ne dort quasiment pas. Il est vraiment... Ça lui demande une énergie assez énorme. Et il va s'occuper de la saillie, donc de la reproduction avec chacune des juments. Donc, il a une période assez restreinte, je ne sais pas, peut-être une ou deux semaines au printemps, où il va saillir toutes les juments du troupeau. Et aucun autre mâle ne le fera. C'est que l'étalon qui va s'en occuper.
Oui, c'est ça. Il y a un seul étalon dans la harde, mais voilà. ça ne... ça ne donne aucune indication sur le nombre de mâles. Il peut y avoir autant de mâles.
Non, après, c'est 50-50 à peu près, hein, entre mâles et femelles, mais enfin, je suppose. Mais il n'y en a que un qui a le droit, on va dire, de saillir les juments. Et donc, autour, on va avoir les juments au milieu, autour d'autres mâles, enfin, les autres mâles qui ne sont pas les talons, et qui vont donc entourer, on va dire, les juments. Et encore extérieur à ça, mais assez mouvant quand même, on a les poulains qui de temps en temps viennent téter leur mère, mais du coup qui ne restent pas dans le troupeau pour éviter de donner des coups de pied par exemple dans les ventres des juments qui sont déjà gestantes d'un autre poulain pour l'année qui suit. Donc par mesure de sécurité, hop, ils sont à l'écart, et parce qu'ils ont besoin de s'éduquer entre eux, de jouer entre eux. Et puis on a une jument dominante. On appelle ça comme ça, une jument dominante. Et en fait, on pourrait dire que c'est une jument guide ou référente, qui est celle à laquelle tout le monde se fie. C'est celle qui sait. Et donc, qui va savoir où aller manger, où aller chercher l'eau. Celle qui va vraiment guider tout et résoudre aussi les conflits. Parce que les chevaux, étant des proies, n'ont aucun intérêt à ce que le sang soit versé au sein de la harde, parce que ça attirerait potentiellement des prédateurs. Donc c'est les hardes, il y a très peu de conflits normalement au sein d'une harde. C'est vraiment minime. Voilà.
Est-ce qu'on sait comment sont désignés les talons et la jument guide ?
Alors la jument guide, en fait, ça va être juste parce que c'est elle qui a le plus d'expérience. Et donc, ça peut venir de différentes choses. Une jument qui est âgée et du coup, elle a gagné en expérience. Soit ça peut être aussi une jument qui, quand elle est devenue assez grande pour être saillie, par exemple, donc après avoir passé l'âge d'être pouliche, c'est comme ça qu'on dit pour les poulains femelles, elle doit rentrer normalement dans le troupeau et se faire saillir. Elle va refuser, donc ça va être une jument qui va partir du troupeau, enfin de la harde, et du coup qui va acquérir beaucoup d'expérience en autonomie. Et finalement, ce genre d'histoire forme parfois, bon c'est un peu long à expliquer, mais en résumant, ça forme parfois au final des juments dominantes.
Et c'est un scénario de film hollywoodien là.
Un peu, ouais. Mais ce que j'en ai compris. Et les étalons, c'est des combats en fait. Hein. Quand un étalon vient pour essayer de prendre une harde, c'est à celui qui va gagner la face. Et il faut savoir qu'un étalon, du coup, a une durée de vie très courte parce qu'en fait, il s'épuise très rapidement vu le boulot qui lui incombe. Donc, souvent, vers l'âge de 4-5 ans, il n'est plus étalon et il se fait remplacer par un autre.
D'accord. Alors, une fois que le cheval est domestiqué, dressé par les humains, est-ce qu'il arrive que ces animaux montrent des signes d'un désir, d'une nostalgie de la vie sauvage sous une forme ou une autre, je ne sais pas.
On peut dire ça comme ça. Ça, c'est assez parlant. Disons que je dirais que quand les chevaux peuvent montrer des signes de vie sauvage, en tout cas dans le sens où ils peuvent se rebeller, parce que ça leur paraît pas juste la manière dont ils sont traités, à ce moment-là, on pourrait peut-être dire que c'est une manifestation de la vie sauvage. Le cheval qui, en fait, ne veut pas s'éteindre. Ça peut être ça. Après, il y a des chevaux qui sont très fugueurs aussi, qui s'en vont tout le temps. Peut-être que ça vient de là aussi, d'une envie de ne pas être restreint, ou alors parce qu'il n'a rien à manger dans son pré. Hein, ça, c'est aussi possible. En tout cas, moi, je l'ai vu sur des chevaux qui, en fait, ne supportent pas du tout... qu'on leur donne des consignes trop strictes ou d'être dans un manège trop régulièrement. Donc il y a des chevaux qui sont très habitués à ça, qui finissent par ne même plus réagir. Mais en fait, à la base, quand même, un cheval, ça l'ennuie beaucoup. Et je dirais que s'il garde son instinct sauvage, ce que je lui souhaite, il peut vraiment le manifester à ce moment-là. Voilà. Et l'inverse, ça va être des chevaux éteints. Ce qu'on dit ça comme ça, ça se voit dans leur œil aussi. Ils ont un œil éteint. Et c'est des chevaux résignés, en fait. Je dirais qu'ils ont perdu leur vie sauvage, et qui, du coup, n'ont plus vraiment de goût à ça. Je pense que c'est l'un des buts aussi, quand on est avec les chevaux, de préserver cette vie sauvage. Voilà.
Alors, on va entendre un petit extrait qui, justement, sera facilement mis en relation avec ce que tu viens de dire.
Il est plutôt rapide?
Oui, sauf qu'il part dans tous les sens. Ce cheval est tellement abîmé qu'il est difficile de savoir ce qu'il vaut. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils l'ont bousillé à force de le faire tourner en rond. Ils lui ont fait oublier ce pourquoi il est né. Aujourd'hui, il a besoin de réapprendre à être un cheval.
Comment faut-il procéder? Vous voulez que je l'emmène jusqu'où?
Jusqu'à ce qu'il n'avance plus.
D'accord. Ça devrait faire une belle balade.
Espérons-le.
Un nouvel extrait de Pur Sang, la légende de Seabiscuit. Une question importante, je pense. En quoi consistent ces deux choses différentes, je crois, qu'on appelle le débourrage et le dressage?
Alors, le débourrage et le dressage d'un cheval, alors, ça peut partir de différents stades, parce que si on parle d'un cheval sauvage, par exemple, ça va déjà être de l'apprivoiser, donc de lui faire accepter la présence de l'homme et d'établir un lien de confiance. Pour des chevaux qui sont nés, on va dire, en captivité, ça va déjà être un travail différent. Le débourrage, ça commence dès les premiers contacts qu'on va établir avec un poulain. Donc c'est très important, en fait, les débuts de la vie d'un jeune cheval. Donc là, il y a vraiment un rôle primordial à jouer. Ensuite, ce qu'on appelle plus couramment le débourrage, c'est le fait de que le cheval accepte un cavalier sur son dos. Mais en fait, avant ça, il y a évidemment toute la manipulation du cheval. Donc ça va être même pouvoir le panser, donc le brosser, puis lui faire accepter le harnachement. Donc ça va être le tapis, la selle, le filet. Donc tout ça, c'est des étapes. Et puis, en fait, déjà dans ces étapes-là, la manière dont on va s'y prendre va jouer énormément sur le reste. On va dire, finalement, monter sur le cheval, ça découle de ce qui se passe avant. Normalement, on saute pas sur un cheval sans avoir rien fait avant avec, quoi.
Tout à l'heure, tu as dit le cheval est une proie. Et dans les fragments de ton livre en cours d'écriture que j'ai pu lire, tu dis que c'est très important, en fait, pour comprendre le cheval, de savoir qu'il est une proie. Tu évoques la peur. On perçoit que quand on parle de cheval, c'est un sentiment sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Alors ça va dans les deux sens, la peur de l'humain vis-à-vis du cheval, la peur du cheval vis-à-vis de l'humain, la peur de l'humain plus générale, la peur du cheval plus générale, bien sûr. Donc un sentiment qui se communique d'ailleurs de l'un à l'autre. On imagine bien qu'entre un cheval et un cavalier, en randonnée ou tout simplement en mouvement, il peut se passer beaucoup de choses de ce point de vue-là. Dans le livre, tu évoques certains exemples, le vélo qui arrive par derrière, un champ, même avec des moutons, par exemple, sur le côté du chemin. Qu'est-ce que tu peux dire sur la peur? Déjà, de quoi peut-être le cheval a peur?
Oui, déjà, je pense que c'est bien pour commencer, en effet, de dire de quoi le cheval a peur, ou même comment fonctionne la peur chez le cheval, parce qu'en fait, c'est pas pareil que chez l'être humain. Il y a une part instinctive qu'on a, nous aussi, et en fait, qui est celle du cheval. C'est-à-dire, le cheval, étant une proie, a peur pour la survie, en fait. C'est-à-dire qu'il a la nécessité d'avoir peur pour réagir à un danger potentiel. Donc, il va forcément avoir des réflexes, par exemple, de fuite, C'est souvent la fuite, en fait, qu'utilise le cheval, ou alors... En effet, ça peut être de taper, de mordre, parce que quelque chose le surprend et qu'il ne peut pas fuir. Mais du coup, il a pas. Ce qui est différent de nous, c'est qu'il ne va pas avoir des peurs projectives. C'est-à-dire, il ne va pas se dire dans le futur, oh là là, s'il se passait cela, c'est horrible. Comme nous, on peut se créer des angoisses à se dire, je vais partir en randonnée, mais la dernière fois, je suis tombée, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ou alors, même juste parce qu'on ne connaît pas. Ça, le cheval, il a pas ça. Il peut avoir des événements traumatiques qui font qu'il redoute une situation quand elle arrive. Ça peut aussi, quand même. Mais vraiment, la majorité, c'est une peur sur le moment. Donc déjà, ça, c'est à bien comprendre. Et donc, à ne pas condamner. Parce qu'en fait, c'est naturel qu'il ait un mouvement de peur. On ne peut pas lui demander de rester stoïque face à un chevreuil qui déboule, par exemple. Mais par contre, on peut mieux réagir en prenant compte de son mouvement.
Oui, puis moi, une fois sur un chemin, j'ai vu une famille de sangliers débouler à quelques mètres devant moi. J'ai eu peur.
Oui, voilà, c'est ça. Même nous, on a peur de choses. Voilà, ça... Oui, donc après, je ne sais pas si dans la question, il y avait autre chose.
Il y a plein de choses. On comprend que c'est un sujet clé, la peur. Si on parle de la peur de l'humain, pour préciser, j'ai envie de demander, est-ce que quand nous avons peur du cheval, est-ce que c'est de la nature quelque part aussi que nous pouvons avoir peur à travers lui ?
Alors oui, avant de répondre à cette question, ça me revient juste dans la question d'avant, par rapport au fait que ce soit lié l'un à l'autre, la peur, ça revient à l'extrême sensibilité du cheval, et donc oui, il ressent la peur. Il va ressentir l'odeur de notre sueur quand on a peur, le battement de nos cœurs, il va le ressentir aussi, le fait qu'on tremble, donc voilà, tout ça c'est sûr que le cheval peut le sent en fait, c'est pas peu, il le sent. Et donc... par rapport au fait qu'on ait peur de la nature du cheval, enfin peur de la nature quand on a peur du cheval, je pense que oui, parce qu'en fait c'est ce qu'on vient d'échanger avant, c'est par rapport à l'instinct, ça fait penser vraiment à la nature aussi, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la raison ou d'une conception, c'est en fait juste ce qui arrive, ce qui jaillit, et en quelque sorte, l'instinct c'est... Voilà, c'est très naturel en fait. C'est quelque chose qui n'est pas réfléchi par le cheval. Donc oui, je pense qu'on peut avoir peur de ça. Et parce qu'il est très... il est tellement, lui, en lien avec la nature qu'en fait, ça peut faire écho à ça et troubler pas mal de personnes.
Alors n'oublions pas que la peur est aussi, bien sûr, individuelle. Pour un cheval comme pour un humain, les peurs ne sont pas les mêmes selon les individus. Elles peuvent avoir d'ailleurs... plus ou moins d'emprise sur un individu. Alors peut-être en tant qu'ATE, accompagnatrice de tourisme équestre, je suppose tu ne vas pas donner un cheval qui a peur à quelqu'un qui a peur. Donc quel cheval pour quelle personne dans ton métier, c'est quelque chose de décisif.
Ah oui, tout à fait. Y a un adage d'ailleurs qui existe et qui dit... je crois que c'est jeune cavalier, vieux cheval, dans le sens de vieux cheval, cheval d'expérience, cheval confiant. Et c'est assez vrai. Et jeune cavalier, parce que souvent, cavalier qui a peu d'expérience, en fait, voilà. Et donc, c'est ce qu'on applique dans le métier. Quand on a quelqu'un, en effet, qui a peur, qui est très anxieux et tout ça, on va plutôt essayer de lui donner un cheval qui, lui, est très, très cool, calme, assez détendu. Et à l'inverse, voilà, quelqu'un qui est assez posé, qui est quelqu'un de serein, on va pouvoir lui mettre un cheval un peu plus speed, parce que ça va pas lui faire peur. Et voilà, après, c'est vraiment du cas par cas, mais en effet, on adapte vraiment. Et il y a différents tempéraments de chevaux, comme il y a différents tempéraments de cavaliers, donc on a vraiment la possibilité de créer des couples qui fonctionnent bien.
Vous êtes toujours à l'écoute de Silab, c'est l'émission Il Disegno, et ce soir notre invitée Célia Carimalo, l'humain et le cheval. Un petit intermède filmique et on continue cet entretien dans une minute.
Le cheval est à moitié fou, monseigneur. Vous n'en tirerez rien. Laissez-le.
Il est là. Ah, c'était...
Il s'appelle Harold. C'était le cheval de mon cousin.
Harold ? Laissez-le en liberté. Il a assez vu la guerre.
un nouvel extrait du Seigneur des Anneaux. Il n'y en a pas tant que ça, des films qui parlent de la proximité intrinsèque entre l'humain et la nature. Alors, Célia, quand on parle de la sensibilité d'un cheval, de quoi parle-t-on exactement ?
Alors, quand on parle de la sensibilité, je pense déjà qu'on parle au fait que... Enfin, du fait que le cheval, ses sens sont très développés. Déjà, ça commence par là. Tous ses sens, c'est-à-dire, l'ouïe est bien plus développée que nous. Sa vue est très différente de la nôtre. Je dirais pas, je sais pas si on peut dire plus développée, mais différente. C'est-à-dire, par exemple, il a pas le même champ de vision que nous. Déjà, il voit quasiment à 360 degrés. Il a un angle mort derrière et un tout petit devant, mais il va beaucoup plus facilement détecter les mouvements que les détails visuels, par contre. Donc, c'est différent de nous. Il ne voit pas les mêmes couleurs. Enfin, y a plein de choses qui diffèrent. Mais en tout cas, il y a ça. Il y a le toucher. Enfin, en tout cas, la sensibilité tactile chez un cheval, c'est vraiment impressionnant. On peut le voir, par exemple, l'été, quand ils sont envahis de mouches, ils sentent une mouche sur n'importe quelle partie du corps, complètement. Ça peut être vraiment n'importe où. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles que nous. Je dirais que c'est... toute cette hypersensibilité, elle fait que il va recevoir beaucoup plus facilement les informations dont nous on peut parfois être coupé, comme les émotions des personnes. Donc si quelqu'un notamment a peur, si quelqu'un s'énerve, si quelqu'un parce que des fois on est énervé intérieurement et on paraît calme extérieurement, le cheval peut très bien refuser l'exercice alors que de l'extérieur le public se dirait il est au top.
Ouais, c'est super.
C'est ça. Et le cheval, il est pas dupe, quoi. Donc, il a vraiment quand même une capacité à percevoir vraiment plus évoluée que la nôtre. Ouais.
Oui, ça me fait penser d'ailleurs à une vidéo que j'avais vue sur un cheval, Peyo, qui en fait va dans les hôpitaux. Alors, il va beaucoup à la rencontre de personnes qui ont des maladies graves, qui parfois sont... déjà face à face avec la mort, en quelque sorte. Et c'est un cheval qui vient, il ne dit rien, évidemment. Il vient voir les patients, il s'approche d'eux, il communique avec des sons, des mouvements, etc. Et a priori, d'après le documentaire que j'ai vu, il y a des choses très fortes qui se passent, beaucoup d'émotions qui se libèrent. Des personnes qui n'arrivaient pas à exprimer, à libérer quelque chose avec des soignants, des humains, des amis, des proches, etc. Tout à coup, face à ce cheval, tout s'ouvre. Mais on voit aussi des cas où le cheval semble refuser l'échange. Mm. Et quand on voit les images, on se dit bien, ça n'est certainement pas gratuit. Quand on le voit faire ça, on ne voit que ça. Mais il y a une telle netteté, en fait, dans l'attitude de ce cheval que... On comprend que clairement, en effet, il n'est pas dupe, il a vu quelque chose, il a senti quelque chose.
Oui, et puis le fait que les gens soient très à l'aise avec un cheval alors que, par exemple, ils n'arrivent pas à en parler au personnel soignant, ça montre bien que les chevaux, en fait, ils n'ont vraiment aucun jugement. Ils ne portent pas de jugement, pas de préjugés non plus, ni physique, ni même des personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont, on le voit avec des autistes, par exemple, des personnes autistes. En fait, le cheval, il est vraiment complètement ouvert. Et ça permet cet espace, comme on pourrait l'imaginer, avec un endroit où on peut vraiment se confier, comme si on avait un psy exceptionnel qui nous accueille inconditionnellement. Le cheval, s'il est bien dans sa tête, il peut vraiment faire sentir ça, quoi.
Voilà, évidemment, la condition de son ouverture, on imagine que c'est son bien-être, son bonheur. Ça m'amène à cette question... Est-ce que tu as déjà eu à faire des choix qui mettaient en jeu le bonheur d'un cheval, de ton cheval, par exemple? Et donc, sur quoi peut reposer le bonheur ou le malheur d'un cheval? Ça peut être un peu abstrait pour les personnes qui ne sont pas proches des chevaux.
En choix que j'ai dû faire, moi personnellement, je dirais que ça tient compte justement des paramètres, indiscutables du bonheur du cheval. C'est notamment par rapport à son lieu de vie, les conditions de vie qu'on lui offre. Pour moi, il y a des choses vraiment qui sont... Enfin, c'est même pas pour moi, en fait. Il y a des choses qui sont vraiment indispensables au cheval pour qu'il se sente bien, notamment une vie à plusieurs. Donc, il faut qu'il soit avec d'autres congénères, au moins deux autres, mais c'est vraiment le minimum, plus si possible. Et en extérieur, parce qu'il est fait pour être dehors. Et donc, pas enfermé dans un box, quoi... Vraiment, ça répond pas du tout à ses besoins, surtout pas isolé des autres. Et il a besoin, par exemple, de manger 15 à 16 heures par jour. Donc, clairement, être dans un pré, ben, c'est le mieux parce qu'il peut manger son herbe ou avoir du foin s'il n'y a plus d'herbe dans le pré. Donc, moi, les choix que j'ai dû faire, ben, c'est choisir des endroits où elle peut avoir ces conditions-là réunies déjà. Et après, je dirais que quand même, le grand choix à faire quand... par rapport à un cheval qui serait le nôtre ou dans la relation au cheval, c'est de se remettre en question et de cheminer avec, parce que sinon il peut pas être heureux non plus. Donc ça c'est un choix aussi, mais voilà, c'est une nécessité, mais du coup si on fait pas ce choix là on peut rendre un cheval malheureux, en fait. Faut vraiment c'est une nécessité de se remettre en question constamment quand on est dans une relation avec un cheval.
Est-ce que tu observes une évolution, on espère peut-être vers le mieux, dans les pratiques, dans les milieux équestres, au niveau du bien-être, de la considération du bonheur des chevaux?
Bah alors oui, quand même. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça, d'où l'explosion des éthologues, etc. Évidemment, il ne va pas y avoir... Que des bonnes choses, mais ça montre quand même qu'il y a un intérêt vraiment grandissant sur la question du bien-être animal. Là, récemment, j'étais à Lamballe à une conférence sur le bien-être animal, justement, organisée par des professionnels du monde du cheval. Et il y avait vraiment du monde, et les gens étaient concernés par ces questions-là. Leur réponse, ça peut être, par exemple, de créer un label qui permet de valider le bien-être du cheval dans les centres équestres. Et donc, en ayant ce label-là, on sait que les conditions sont réunies et les clients potentiels vont plus venir s'ils sont sensibles à ça. Ils mettent des choses en place comme ça. Clairement, tout n'est pas résolu, loin de là. Et il reste énormément de pratiques qui ne vont pas dans ce sens-là. Mais honnêtement, moi, j'ai bon espoir que ça évolue. Mais je pense que ça va mettre du temps parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent derrière, on imagine bien dans le monde de la compétition, notamment des courses, etc. C'est pas si simple de faire bouger les choses.
Une chèvre pour une course ? Pour essayer de le calmer un peu. Même les plus doués n'aiment pas être seuls trop longtemps. Ah, la présence d'un autre animal, par moments, ça suffit à les amadouer.
Vous écoutez Silapre, c'est l'émission Il Disegno. Et ce soir, nous accueillons Célia Carimalo et nous parlons du lien entre les humains et les chevaux. On entend souvent parler, en fait, de l'amitié entre les humains et les chevaux. Alors, est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu as pu faire l'expérience ?
Oui, je pense que je peux dire ça. Après, le terme d'amitié, il est assez sujet à discussion parce que on peut vite s'imaginer être l'ami d'un cheval à tort. C'est assez dur à discerner parfois. Notamment, c'est pas parce qu'on va aller donner des carottes tous les matins à un cheval que c'est notre ami. Il faut bien savoir ce qu'on entend par là. Après, je peux dire en tout cas que j'ai eu des relations vraiment fortes avec des chevaux. J'ai vraiment senti un lien particulier et un plaisir partagé à passer du temps ensemble. Voilà, notamment quand j'étais très jeune, en fait, avec un poney, où vraiment je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et là, avec ma jument actuellement, on va dire que j'y travaille. En tout cas, j'essaye que la relation, elle se développe dans ce sens-là aussi d'amitié, ouais.
Qu'est-ce que l'équitation... Qu'est-ce qu'on peut dire qu'elle apporte à l'humain, alors de façon globale, parce qu'on imagine bien que c'est un apport en termes de, donc évidemment, d'amitié, de vie sensible, mais aussi de tonicité, d'équilibre, de sens de l'écoute, de l'observation. Enfin, ça paraît immense, quoi. Le périmètre, en fait, d'évolution mutuelle que le cheval et l'humain peuvent s'offrir.
Mmh. Ah oui, tout à fait. Alors voilà, sur le sens de l'écoute et de l'observation, en effet, dans n'importe quelle activité qu'on peut pratiquer avec le cheval, même en commençant par juste marcher avec lui en le tenant en longe à côté de soi, en fait, si on se balade, par exemple, on est toujours obligé d'être très attentif. Ça développe la vigilance, je dirais, parce que les chevaux, ils sont toujours dans le moment présent, donc s'il se passe quelque chose, il faut être là. Et on est vite à côté de la plaque quand on est parti dans nos raisonnements. Mmh. Et le cheval va décrocher aussi de nous-mêmes parce qu'il ne va pas nous trouver intéressant si on est dans notre tête. Donc ça amène quand même beaucoup de présence à soi-même. Et au niveau du sens de l'observation, je dirais que là, alors pour le coup, on peut parler de la randonnée parce que c'est quand même un super outil, la randonnée, pour ça. Parce qu'en fait, on est constamment en train de regarder autour de soi, d'observer ce qui se passe, d'essayer de comprendre ce qu'a détecté le cheval, de prévoir là où on va passer. Donc c'est, pour le coup, ce sens-là, il se développe toujours, mais je pense que c'est une super pratique pour ça.
Et alors le cheval, lui, il a, comment dire, est-ce que tu as pu observer des choses de son sens, non seulement de l'orientation, mais de sa relation au territoire, au terrain où il habite, ou le terrain sur lequel il est en train de bouger, quoi, de se mouvoir.
Bah, sens de l'orientation, alors là, ils ont une super mémoire, donc clairement, ils vont retrouver leur chemin s'ils sont allés quelque part et qu'ils veulent faire demi-tour. Au niveau de la relation au territoire, je ne me suis jamais vraiment penchée sur cette question, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est les chevaux. Donc à la ferme équestre des Corrigans, à Josselin, là où j'ai été formée, on avait des chevaux qu'on a essayé de placer dans des familles d'accueil quand ils étaient à la retraite, qui reviennent en fait. Donc qui sont attachés à leur territoire, clairement. Donc il y a vraiment une question d'attache. S'ils sont bien à un endroit, voilà. Et ils mettent du temps à créer des liens entre eux. Donc ils y tiennent, ils aiment bien avoir des repères, en fait, et connaître le lieu.
On a beaucoup parlé de la relation intime, personnelle, entre humain et cheval. L'accompagnateur de tourisme équestre, c'est aussi quelqu'un qui encadre des groupes, des randonnées équestres avec des groupes d'humains, des groupes de chevaux. Au-delà du simple encadrement, on peut dire peut-être que c'est un métier, alors, plutôt d'animateur, de pédagogue, d'éducateur.
Ben, tout ça à la fois. On est animateur, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, en fait, il y a nécessité d'animer son groupe. Hein, ça peut arriver, voilà. Il y a un peu de fatigue. On sent que, bon, il faut stimuler la vigilance des cavaliers, justement, pour éviter que tout le monde s'endorme sur son cheval. et puis aussi, en fait, on a quand même comme rôle de fédérer le groupe. Et de créer du lien entre les gens, donc déjà nous en commençant à nous intéresser aux personnes qui sont là, mais aussi en faisant en sorte qu'il y ait une bonne harmonie dans le groupe. Et ça peut être par l'animation, mais c'est assez quotidien. Ça va être dans est-ce qu'on prépare les repas ensemble, comment ça se passe quand on soigne les chevaux, c'est une implication en fait vraiment à avoir. Donc ouais, on a vraiment un rôle. C'est ce qui fait la rando aussi, hein. Les gens, ils sont là pour se rencontrer, pour passer un bon moment. Donc ouais, c'est un de nos rôles. Donc il faut être ouvert aux autres et aimer la relation humaine aussi, ouais.
Spécial agent est un cheval rapide. Il prendra la tête dès le départ, mais il ne tiendra pas la distance. Alors laissez pas te coller à son rythme, d'accord? Indian Boone sera aussi dans le peloton de tête. Ils le retiennent légèrement en utilisant le mort. Mais celui dont tu dois te méfier, c'est Rosemont. Il finit ses courses comme un train de marchandises. Il se battra pour arriver le premier. Il faudra que tu aies pris une bonne avance sur lui avant d'arriver dans la dernière ligne droite. Il a beaucoup plu hier. Le terrain va être lourd. Reste loin de la lisse, là où le terrain est plus souple.
En troisième position par rapport à la corde?
Oui, ce sera bien. Et en dehors de ça, essaie de bien le sentir. C'est lui qui te fera savoir qu'il est prêt.
Un dernier extrait de la légende de Seabiscuit, pur sang, la légende de Seabiscuit en français. Alors, une petite réflexion. Il y a évidemment toute une imagerie de noblesse, de silhouette dans l'équitation, sans compter que le cheval était autrefois un signe de distinction sociale, les manants n'allaient pas à cheval. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu le cas, en partie. En tout cas, l'équitation reste aujourd'hui une sorte de précaré pour ceux qui se voient comme les élites. Tout ceci pouvant emmener une esthétique de la pureté de race, mais aussi de ligne, le pur sang, etc. Voilà, ce sont des figures symboliques qui ont une vraie emprise. Personnellement, je trouve que le plus élégant reste le lien entre l'humain et le cheval, surtout quand il est authentique, bien sûr. C'est en bonne partie ce qui m'a fait choisir le sujet de notre émission ce soir. J'ai envie de parler d'avenir, et le cheval, dans le passé, a été, on le sait, durant des siècles, un des moyens de transport les plus importants pour les humains, avec une empreinte écologique, mais aussi une empreinte sensible, bien autrement qualitative vis-à-vis des transports issus de l'ère industrielle. On pourrait sourire à l'idée d'un retour au cheval. Un retour au cheval, quoi, c'est comme presque le fameux retour à l'homme préhistorique, à l'homme des cavernes qu'on nous sert quand on parle du nucléaire, par exemple. Voilà, on pourrait se dire aussi que ça fait carte postale, nanana. Et pourtant, en fait, j'ai des informations que tu m'as données signalant que la mutation est déjà en route.
Oui, alors, mutation globale, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des communes, des mairies qui ont décidé de relancer, par exemple, le ramassage scolaire à cheval. Donc, on va avoir matin et soir un cheval qui tire une calèche dans laquelle on a des enfants qui sont bien contents d'être dans ce contexte-là pour aller à l'école. Et moi, je trouve ça vraiment super parce que ça répond quand même beaucoup à un problème très actuel et ça remet aussi le cheval en lien avec des personnes qui ne le seraient pas autrement. Bon, après, il y a beaucoup de personnes qui soutiennent, parce que ça, il y a vraiment plein de gens qui sont très positifs par rapport à ça. Néanmoins, il y a quand même quelques critiques. Ça vient aussi du fait qu'il y a eu beaucoup d'abus avec les chevaux, donc il y a vraiment des critiques à faire, mais du coup, qui sont là, pour le coup, déplacées souvent, parce que, en fait, il faut voir. Donc c'est dans l'idée que le cheval trime et est très malheureux de tirer sa calèche, c'est lourd pour lui, tout ce qu'on peut imaginer comme réflexion, mais qui en fait ne sont pas fondées sur une connaissance de la part des personnes, plutôt ils ne connaissent souvent pas bien les chevaux. Et ce qui compte, ça va être comment le cheval est traité en dehors de ces moments-là, dans quelles conditions il vit, ou enfin voilà.
Et puis il y a évidemment aussi des chevaux qui sont taillés pour tirer des calèches.
Oui, voilà, bien sûr. On ne va pas prendre n'importe quelle race de cheval. On ne va pas prendre un petit poney Connemara pour tirer une carriole. On a des chevaux de trait, c'est d'où le nom de trait, qui sont largement capables, en fonction de la taille de la calèche et tout. Mais les gens qui attellent savent, en fait. Et ils n'ont aucun intérêt à casser leurs chevaux. Donc, je pense qu'il faut un peu plus faire confiance aussi.
Oui, tu disais dans un de nos entretiens de préparation de cette émission que pour des chevaux de trait, tirer une calèche, c'est comme porter un sac à dos pour nous.
Oui, alors j'ai fait cette comparaison, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'était pour dire que ce n'était pas comme si nous, on avait une calèche sur le dos, en tout cas, clairement pas. Et qu'il faut bien sûr modérer cet usage, hein. Il ne faut peut-être pas qu'il ait 10 heures par jour sa calèche sur le dos, mais en tout cas, on ne peut vraiment pas comparer. Et pour ça, le mieux, c'est de parler avec les gens, de se renseigner et de voir comment les chevaux vont, en fait. Si on regarde, on voit qu'ils sont pas mal, en fait.
Peut-être que les sacs à dos des collégiens sont beaucoup, beaucoup plus mauvais pour la santé que...
Je pense qu'ils ont plus de problèmes de dos que les chevaux de trait, ouais. c'est bien possible.
Alors, en tout cas, aller à l'école à cheval, en calèche, c'est quand même autrement féerique. Il y a l'école, alors il y a aussi le travail. Parce que ça, ce serait une idée, ça, de faire une enquête auprès des auditeurs de Syllab. Que préférez-vous, aller travailler en prenant la voiture sur la rocade de Rennes, ou à cheval, ou en carriole. Je pense qu'on aura des réponses intéressantes. D'autant que, à ce qu'on m'avait raconté, il existe ou il existait encore très récemment un texte de loi. Alors, je me demande si ça n'est pas dans le Code civil, un morceau de Code civil qui est resté valide, en fait, disant qu'un employé qui irait à son travail à cheval, dans ce cas, l'employeur est tenu de fournir une écurie et du foin au cheval durant la journée au travail. Voilà, intéressant. Alors, ma dernière question, puisque la devise de cette émission dit que la beauté est avec ceux qui la préservent, pour toi, Célia, qu'est-ce qui est le plus beau dans la relation avec les chevaux?
Le plus beau, c'est que ça nous amène, si on s'ouvre vraiment à la relation, ça ouvre notre cœur, en fait.
Je vous propose de nous quitter sur ces paroles. Alors, je te remercie beaucoup, Célia, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu positivement à mon invitation. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé, soutenu pour préparer l'émission d'aujourd'hui. Merci à Chani, à la technique, bien entendu. Merci à l'équipe de Scilab. Merci à Julien. Et je vous donne rendez-vous le jeudi 13 février. Il disait Gno, c'est un jeudi sur deux, de 19h à 20h. Bonne soirée à tous.
Merci.